Vous écoutez
RMC.
On est encore au cœur de l'été, le 19 août, mais les drôles de dames sont déjà là. C'est reparti pour les principaux championnats. Fred Hermel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner sont là comme tous les lundis soirs jusqu'à 22h. Dans un instant, on parle Première Ligue, la minute de Fred, mais d'abord, la Ligue 2. C'est la première journée qui s'achève ce soir avec deux matchs, parce que la Ligue 2, c'est pas le week-end cette année. Metz-Bastia, salut Patrick Muller.
Salut Thibaut et bienvenue ici au stade. Alors le match est parti, j'ai envie de te dire, mais pas tant que ça, puisqu'il y a déjà une interruption de cette rencontre. Et bien par rapport à ce que tu viens d'évoquer, hein, le fait que les matchs sont programmés ou le vendredi soir ou le samedi après-midi, mais là en l'occurrence surtout le lundi soir, ça ne plaît pas au public. Grève des encouragements ici. Et voilà, le match vient de repartir. Des balles de tennis ont été jetées sur la pelouse par les deux groupes ultra messins en protestation avec cette programmation. Et d'ailleurs, ça va de nouveau être interrompu alors que la rencontre avait théoriquement commencé il y a 2 minutes et 30 secondes de cela. On voit ces images là des stadiers qui sont en train de sortir des, je crois que ce sont des balles de tennis. Hein. Vu le rebond, a priori, ce ne sont pas des pommes golden. Ce serait plutôt des balles de tennis sur le terrain. Non, a priori non. Sur le terrain, c'est un Metz-Bastia avec Metz qui retourne en Ligue 2 et qui aura l'ambition de remonter immédiatement et qui devra vivre sans Georges Mikotadze et qui va devoir pour l'instant regagner les vestiaires au moment où je te parle parce que tous les joueurs, les 22 joueurs de cette rencontre sont en train de se rapprocher de la ligne de touche. On va voir si cette rencontre va pouvoir reprendre sereinement ou pas.
C'est un 100% cette année en France pour les diffuseurs télé. À tout à l'heure Patrick.
À tout à l'heure.
Martigues-Lorient, Maxime Tilliette, est-ce que ça joue chez toi au Vélodrome?
Oui, depuis 3 minutes, bonsoir à tous. Bon, au stade Vélodrome, tu l'as dit Thibaut, puisque en effet 2000 personnes ce soir au Vélodrome, c'est assez rare pour le signaler. Les Martégos qui ne peuvent pas jouer dans leur stade Turquan qui est en travaux pour être homologué pour la Ligue 2 et qui donc se retrouvent à jouer ici au Vélodrome. Vraiment très faible affluence, hein, seulement 2000 spectateurs environ. Les Martigues qui est de retour hein, 22 ans après en Ligue 2 et d'entrer un gros morceau avec le FC Lorient qui aligne un 11 quasi composé de joueurs qui étaient déjà là en Ligue 1 la saison passée. Mvogo, Talbi, Abergel sont titulaires. Bamba Dieng également. Et pour le moment, ce sont les Merlus qui monopolisent la balle après 3 minutes. 0-0 entre Martigues et Lorient.
Merci Maxime, à tout à l'heure. Retour à nos drôles de dames et à la Première Ligue avec ce premier choc européen finalement de la saison en championnat pour toi Julien. City qui a battu Chelsea 2-0. Et finalement, à l'issue de ce match, il y a du positif des deux côtés à retirer.
Ouais, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Alors, on va commencer par Chelsea, parce que c'est vrai que la saison dernière, on avait été quand même assez offensif sur Chelsea, sur les problèmes, on en avait beaucoup parlé à l'antenne. Et je voulais commencer par un point plutôt positif, parce que certes, il y a des fêtes, certes, c'est un bordel sans nom quand même, ce qui se passe cet été avec toutes les arrivées, on l'a dit déjà tout à l'heure un petit peu en rigolant, mais d'avoir 43 joueurs sous contrat pour ton équipe première, c'est incroyable à ce niveau-là. Je sais pas comment un entraîneur, n'importe lequel, hein, même Guardiola ou même Klopp, et donc encore moins Enzo Maresca, un jeune entraîneur, jeune en tout cas par l'expérience et la carrière, je ne sais pas comment tu mets en place une séance, je ne sais pas comment tu les fais travailler. L'autre jour, le club lui-même a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux de la salle de gym, la salle de muscu. Tu avais l'impression que c'était le périphérique parisien un lundi matin, 8h du matin, c'était impossible. Ils se marchaient dessus, les pauvres, ils essayaient de faire des poids, c'était impossible. Je ne sais pas comment tu peux faire. Bref, ça c'est ce qui se passe un peu en dehors du terrain. Et sur le terrain, j'ai trouvé notamment le premier quart d'heure, une équipe de Chelsea qui a su bien ressortir le ballon, qui a pu battre le pressing de City. Au final, ils prennent un but après 18 minutes de jeu où ils sont un petit peu mal alignés défensivement, mais il y avait quand même j'ai trouvé des choses assez intéressantes avec le ballon. D'ailleurs, ils font quasiment autant de passes que City sur les 90 minutes. Ils ont un expected goals qui est supérieur à celui de City. Ils ont encore Nico Jackson qui rate une grosse occasion, mais bon, ça c'est Nico Jackson, on peut rien y faire. De toute façon, c'est pas un neuf, donc à mon avis, il en ratera souvent des occasions dans cette position-là. Mais voilà, donc tout n'est sincèrement pas à jeter pour une première, même à domicile. Rappelez-vous, la saison dernière, ils avaient commencé par un match à domicile contre Liverpool. Avec Pochettino, ils avaient fait un partout. Là encore, il y avait des bonnes choses. Et puis après, ils avaient fait n'importe quoi pendant jusqu'au mois de février, mars, quasiment. Donc là, on va voir la suite, comment elle se présente. Mais je voulais commencer, en tout cas, de façon un peu plus positive pour Chelsea. Après, pour City, c'était une après-midi tranquille, sincèrement. Ouais. Joueur. Ouais, en plus il n'y avait pas Rodri, mais même un Doku, même un De Bruyne, ça s'est pas entraîné beaucoup. Foden sur le banc, Stones pas là, Walker sur le banc, le jeune Savio que Fred connaît bien de Girona la semaine dernière. Bah oui, et puis là, il fait, il a 20 ans. Voilà, il joue d'abord, il avait joué à gauche et Doku à droite. Et puis ils ont changé parce que Doku avait un peu de mal contre Cucurella. Et au final, Savio fait très mal à Cucurella. Donc voilà, même lui a été prometteur. Et puis après, c'est tranquille pour City. Hein. Sincèrement, ils n'ont pas eu à forcer leur talent. Ils gagnent. Haaland marque le premier
91
but.
91 en 100 matchs, c'est ça, Haaland ? Et voilà, il est toujours critiqué.
Non, mais alors il est critiqué hier, Polo, juste parce que c'est vrai qu'à part le but, tu vois, il a eu deux occasions.
Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Déjà, je vois aussi la presse française là-dedans, d'ailleurs. Enfin, qu'on n'aime pas le style d'Haaland, quoi. C'est une chose.
Mais le mec, oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, même lui, c'est pas qu'il avait l'air blasé, Polo, mais même sur le premier but, il célèbre pas trop. Enfin, tu vois, il est là, il est content. C'était même pour lui, c'était un but facile. Alors, même si sa première touche, elle laisse un peu à désirer, je trouve, parce qu'elle est un peu derrière lui. Mais après, il est tellement fort, il est tellement puissant. Même dans un petit espace comme ça, il voit que le gardien sort. C'est quasiment parfait. Après la suite, il y en a une en deuxième période où il frappe intérieur pied gauche en une touche. Elle est un peu trop sur le gardien, donc elle rentre pas. Mais même pour lui, hein, c'est service minimum hier, comme un peu Manchester City. Et il s'impose quand même 2-0 sans vraiment trembler. Donc voilà, c'était une après-midi tranquille. Et puis ça va monter en puissance, quoi qu'il arrive, et lui aussi.
Ouais, Fredo.
Ouais, parce que j'ai vu le match en replay cet après-midi. Et j'ai vu aussi qu'en Espagne, on a beaucoup parlé d'un problème de Cucurella avec le public de City. Je sais pas si t'as vu ça.
Hier, tu veux dire dans le match, il a été un peu sifflé, mais c'était un peu ce qu'on avait vu en Allemagne déjà, où tu sais, il s'était fait un peu pourrir par les supporters.
Parce qu'il a chambré.
Je pense que ça vient de là aussi. Il avait chambré après, tout à fait, c'est ça.
Ah oui, d'accord. Mais il a chambré. Son statut, justement, parce qu'il fait un bon euro. Quel est son statut maintenant, lui, à Chelsea? Parce que c'était pas un joueur espagnol très connu. Tu vois, maintenant depuis l'Euro quand même, on le voit plus, quoi. Enfin, c'est.
Ah ouais, mais la saison dernière, mais sincèrement, au début de l'Euro, personne en Angleterre aurait pu dire qu'il allait faire une compétition, un tournoi pareil, parce qu'il avait été vraiment soit il avait pas joué avec Chelsea, soit il avait vraiment été mauvais ou très moyen, on va dire. Et puis il fait, comme tu dis, un Euro fantastique. Et là, il semblerait qu'il soit le choix numéro 1 au poste d'arrière gauche pour Maresca et Chelsea, au point que Chilwell n'était même pas dans le groupe pour ce match-là. Il devrait partir un peu comme Raheem Sterling. De toute façon, il va falloir qu'il fasse partir des joueurs, parce que comme on l'a dit, ils ont un effectif bien trop important. Et lui, plutôt tranquille sur ce côté gauche. En tout cas, il a été bien meilleur qu'un Fofana, par exemple, qui, je trouve, a eu beaucoup de mal dans l'axe pour Chelsea, notamment sur sa relance ratée qui amène le deuxième but.
Il y a un truc que je vais regarder vraiment, et parce qu'ils sont aussi dans tous vos championnats, ces Espagnols qu'on n'attendait pas et qui ont été au-delà du niveau qu'on pouvait attendre.
Je voulais te poser la question sur un joueur, mais
j'attends de voir Olmo au Barça. Parce qu'il a été au-delà de son niveau habituel, sincèrement. Tu l'avais vu jouer, hein. Toi, tu parlais de quel.
Je parle du nouveau qui est arrivé à Leverkusen, je vais en parler un peu plus tard.
Bon, on en parlera tout à l'heure. On garde sous le coude. 20h54, on me dit dans le chat pour la comparaison avec la salle de muscu de Chelsea, on me dit sinon un Basic Fit à 17h.
Ah, c'est possible, je ne fréquente pas Basic Fit, mais oui, ça doit peut-être être ça aussi.
Fredo, Basic Fit à 17h, c'est comme ça.
Sérieux.
Ah, mais moi, j'ai un vélo chez moi.
Bon, pardon, monsieur.
Je ne mélange pas avec la population.
Un vélo stationnaire, comme on dit.
Un vélo stationnaire.
Pas home trainer.
Toi, t'as le même, Polo. T'as aussi un vélo stationnaire.
Moi, j'en ai deux chez moi.
Wow.
Un pour le Tour de France, un pour le Tour de Tennis.
Exactement.
Tiens, Fredo, tu gardes la main. Place à ta minute musique, Polo.
Que dulces mentiras, que grandes verdades que nos inventamos para perdurar.
Que de doux mensonges, que de grandes vérités nous nous sommes inventés pour perdurer. C'est beau, non? Pablo Milanés, il fallait un Cubain. Il fallait un Cubain pour le sujet que je veux traiter ce soir. Le plus grand chanteur cubain mort il y a quelques années à Madrid, Pablo Milanés. Cette chanson s'appelle La Felicidad, le bonheur, parce que oui, c'est le bonheur de vous retrouver. C'est ma 25e saison RMC. 25e, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est pas rien, c'est un quart de siècle, donc je suis ravi d'être là.
Ravi d'être là, que tu sois là. Et d'être là avec toi.
Et pourquoi Cuba? Parce que je vous parlais de Miami. Et Cuba, vous savez.
25 ans quand même, excuse-moi, ça vient.
25 ans, bah oui. Bah,
L'ancien.
Bah oui, c'est quand Zidane arrive au Real.
Ah oui. Donc ça, c'est il y a 25 ans.
Il y a 25 ans, et voilà. Et donc, ça sera 25 ans dans un an, donc c'est ma 25e saison. Donc bref, Pablo Milanés, pourquoi? Parce que je veux parler de Miami. Et Miami, qu'est-ce qu'il y a de. C'est tellement cubain, c'est la ville la plus cubaine en dehors de Cuba. Il y a beaucoup de réfugiés cubains, bien sûr. Et donc, Pablo Milanés est un chanteur extraordinaire, le plus grand chanteur cubain de tous les temps. Pourquoi je veux parler de Miami? C'est parce que les amis, je ne sais pas ce que vous faites à Noël, mais si vous avez envie de voir un match de Liga avant Noël, le 22 décembre, vous pouvez aller à Miami, au Hard Rock Stadium.
aller voir Barça Atlético.
Voilà, ça c'est match du championnat, quoi.
Match du championnat.
D'accord.
Voilà, c'est l'idée.
Quelle en est la raison?
Ah bah, l'argent, mon bon monsieur.
Ah ouais,
c'est l'idée, l'idée de David Tebas. Ça avait plusieurs fois, il avait déjà essayé de faire jouer il y a deux ans, mais ça n'avait pas réussi parce que la FIFA n'était pas très favorable. Aujourd'hui, il semblerait que la FIFA commence à être intéressée. Donc là, il pourrait qu'un match de Liga soit totalement part de ce jour en Amérique, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, sur le papier, ça m'a fait rigoler. Moi, je trouve que c'est une honte pour une raison déjà éthique. Parce que sportivement, je suis désolé, c'est pas pareil, que ça fait un match de moins à domicile pour le Barça et un match de plus à l'extérieur.
Ouais, ça c'est tant pis pour eux. Ils ont le choix.
Ils ont le choix. Ils font ça pour l'argent.
Oui, oui,
ça pour l'argent.
Tant pis pour eux du coup.
Alors ils adoraient. Tebas a adoré faire un Real Barça ou un Barça Real. Ouais. Sauf que le Real, il est en guerre, il en veut pas. Mmh. Ils sont en guerre, etc. Donc le Barça fait ça pour l'argent. L'Atlético fait ça aussi pour l'argent. En tout cas, il faut une affiche aussi qui puisse plaire beaucoup. Il fait ça parce que il estime que ça va promouvoir la Liga aux États-Unis et que ce sera bon parce qu'il veut attirer des investisseurs, voilà, des fonds de pension, etc., tout ce qu'on veut, et puis des sponsors pour la Liga espagnole qui a bien besoin d'argent, ça on peut le comprendre. Le problème, c'est que je trouve que éthiquement, c'est un vrai problème parce que ça fausse la compétition. Pourquoi ? Parce que le Barça joue un match de moins à domicile, c'est un problème. Parce qu'ils vont toucher de l'argent que les autres clubs ne vont pas toucher, c'est un problème au niveau de la compétition. Et puis moi, je pense aux supporters, en fait. Enfin, c'est quand même après le match du Real.
C'est même pas les supporters, Fred. C'est les socios. Qu'est-ce qu'ils font, les socios? Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne l'année dernière, quand il a failli y avoir un investisseur qui a débarqué? Le bordel que ça a été dans tous les stades allemands? Qu'est-ce qu'ils font en Espagne?
Mais en fait, les mecs,
ils sont toujours là. Moi, ils ont le mot en France, on a le mot socios à la mot à longueur de temps. Les mecs, ils foutent rien, quoi.
Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'en plus, t'imagines, après le Barça Real, le Barça Atlético, c'est le deuxième match le plus important de la saison. Donc les mecs qui ont leur abonnement toute l'année, ils vont peut-être pas voir ce match-là. Donc c'est absolument lamentable. Voilà. Moi, je sais. Moi, allez, jouer dessus la Super Coupe d'Europe à l'extérieur, le Trophée des Champions, tout ce que vous voulez, Super Coupe d'Espagne, pourquoi pas? Allez, ça prive de certains supporters, mais ça fait plaisir à d'autres supporters. Mais là, je trouve que ça altère un championnat quand un match ne se joue pas.
Et en plus, 22 décembre?
Ouais.
Faire ça trois jours avant Noël.
T'imagines?
20h58, Génération After spécial Drôle de Dames. Avec Fred Hermel, Polo Breitner, Yoann Crochet, Julien Laurence. Et on est en direct jusqu'à 22h. C'est reparti pour la saison des Drôles de Dames. Comme tous les lundis soirs, dans un instant, justement, le championnat d'Allemagne, peut-être le plus relevé de l'histoire. Polo nous explique tout dans un instant. Une petite astuce dans ce que je viens de dire, vous allez voir. Et puis, il y aura les minutes de Julien, de Johan. Ça va repartir en Ligue 2 entre Metz et Bastia, toujours 0-0. Pas de but non plus dans l'autre match du soir. Et puis, c'est fini en Espagne. Valladolid a battu l'Espagnol 1-0. En attendant, à 21h30, Villarreal, Atlético de Madrid. A tout de suite sur RMC.